Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Ça me fait bien plaisir de parler avec Suzanne Maltais, qui est directrice de l'Association québécoise de la dysphasie Mauricie et Centre du Québec. Bonjour, Mme Maltais.
Bonjour, Mme Denis.
Un grand merci d'être avec nous. D'abord, parlez-nous de votre association. Quelle est sa vocation?
Bien, en fait, la vocation de l'association, c'est d'aider, de soutenir les personnes atteintes de la dysphasie et leurs familles. Le premier objectif de notre association, c'est bien sûr de sensibiliser et de promouvoir justement la dysphasie à différents niveaux.
Et la dysphasie, c'est quoi exactement?
Bien, la dysphasie, c'est un trouble du développement du langage. En fait, une personne qui a la dysphasie, elle a de la difficulté importante, c'est ça, dans le développement, l'apprentissage et la maîtrise du langage. Puis ces difficultés-là sont très importantes. Elles occasionnent des impacts sur le fonctionnement quotidien d'une personne. Puis c'est des choses, c'est un trouble primaire de langage, donc c'est à la naissance et qui perdure dans le temps.
OK, d'accord. On est avec la dysphasie.
Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça un trouble primaire du langage, parce que à la naissance, c'est ça, il est déjà présent. C'est pas quelque chose en cours de vie là, qu'on a, là. C'est vraiment à la naissance, la personne a ce trouble neurologique-là.
Mais j'imagine que si on est avec la dysphasie, c'est pas nécessairement facile à diagnostiquer, étant donné qu'on ne parle pas quand on est?
Non, mais c'est en cours de vie qu'on réalise que notre enfant a plus de difficultés que les autres à émettre les premières paroles, le papa, le mot maman. C'est ça qu'on voit avec les autres enfants du même âge. On s'aperçoit qu'eux ont beaucoup de difficultés, là, c'est ça.
Et est-ce qu'on en connaît la cause, Mme Maltais?
Bien, c'est ça. La cause, au fond, c'est un trouble neurologique. Donc, c'est dans le développement que ça se passe, mais la cause exacte, on ne la connaît pas.
Ah, ça reste un mystère.
Ça reste un mystère.
Est-ce qu'il y a des recherches qui se font pour en savoir davantage sur ce trouble?
De ma connaissance, à savoir d'où il vient le trouble puis pourquoi les gens ont le trouble et d'autres non, je le sais pas. Honnêtement, je pourrais pas répondre à cette question-là. Je sais pas s'il y a des recherches qui se font.
Mais est-ce que
c'est sûr que c'est pas une maladie, donc le fait que ce soit pas une maladie, les gens ont pas de médication à prendre, puis je veux dire, c'est pas non plus dégénérescent, fait que au fond c'est un trouble. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être moins de recherches, mais je vous dis ça comme ça.
Mais est-ce qu'il existe des moyens de pallier le problème, les difficultés?
Bien, en fait, le moyen qui va être utilisé, c'est surtout, en fait, au niveau du soutien de la santé, c'est sûr qu'on va se diriger rapidement vers les orthophonistes, qui, eux autres, ils travaillent aussi avec d'autres professionnels de la santé. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire, les orthophonistes, c'est ça, c'est qu'ils vont s'assurer de mettre un diagnostic là, sûr que c'est bien la dysphasie, parce que des fois, ça pourrait être ça soit un gros retard de langage. Ça peut être des difficultés, des fois, langagières que notre enfant peut avoir, qui doit réussir à passer par-dessus au fil du temps, mais qui n'est pas nécessairement une dysphasie. Donc, je pense que l'importance de l'orthophoniste, c'est que les parents puissent avoir un diagnostic, être certain que leur enfant a bel et bien la dysphasie.
Mm-hmm.
Puis, au niveau du soutien, c'est sûr que nous, on est un organisme communautaire. C'est sûr que nous, on est là aussi pour soutenir les parents puis les individus qui ont justement... On dit dysphasie, mais maintenant, ça s'appelle trouble développemental du langage.
Oui, bien oui, j'ai fait un petit travail en allant voir votre site Internet qui s'appelle quand même dysphasiemcq.com. Le mot est toujours là, puis...
Le mot est toujours là. Oui. Oui, c'est sûr que, en fait, ça va évoluer en cours, mettons, de temps, que peut-être qu'on va finir par appeler vraiment ça TBL, mais ça change rien que la personne est quand même dysphasie.
Oui. Mais pourquoi ça change d'appellation?
Bien, je pense que les orthophonistes, c'est eux qui ont décidé ça. Je pense qu'eux autres, ils décident d'associer d'autres troubles aussi du développement du langage.
Ah, je comprends.
Tu peux avoir le bégaiement, il y a d'autres choses, tu peux avoir du retard... fait qu'au fond, la dysphasie, c'est vraiment le diagnostic final qui dit justement qu'une personne a atteint un niveau, là, on peut dire que c'est la dysphasie, mais sinon, il y a d'autres troubles aussi associés au langage. Fait que je pense que c'est ça, ils ont voulu comme regrouper dans le trouble du développement du langage différents troubles.
Oui. Et tout récemment, donc, c'était la semaine du trouble développemental ou le trouble du développement du langage. Vous avez choisi dans vos activités de sensibilisation de cibler particulièrement les employeurs. Pourquoi?
Oui, ben disons que moi, c'est important que les personnes dysphasiques à l'âge adulte, atteignent une certaine autonomie. Puis comme vous, comme moi, l'autonomie fait que quand on devient adulte, ben c'est il faut travailler. Fait que pour eux, c'est pour ces personnes-là de prendre leur place sur le marché du travail. Parce qu'au fond, c'est ça, la communication aussi. La communication, je veux dire, c'est quelque chose, comment je dirais, c'est essentiel, c'est pour développer des relations interpersonnelles. Donc, c'est difficile pour une personne dysphasique d'aller rencontrer un employeur puis de se vendre comme vous puis moi, on serait capable de faire pour prendre notre place. Donc, nous, il faut les aider puis il faut aussi sensibiliser les employeurs.
Oui.
Une fois qu'une personne dysphasique est sur le marché du travail, bien, c'est certain qu'elle va évoluer. C'est certain qu'elle va avoir une meilleure estime d'elle. Au fond, c'est aussi gagnant. Ce que je veux dire, c'est aussi gagnant pour les employeurs de faire une place dans leur équipe de travail à une personne dysphasique parce que ces personnes-là ont des grandes qualités. C'est des personnes fiables, ils sont travaillantes, ils sont minutieuses, puis ils sont aussi inspirants pour des collègues de travail qui travaillent avec une personne qui met beaucoup, beaucoup d'efforts pour garder son emploi, qui est très, très reconnaissante d'avoir un emploi. Donc, pour moi, c'est ça, c'est important que les employeurs sachent qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour pouvoir se dire que les adultes dysphasiques, tu sais, auront la chance là, de faire une vie normale, là, comme tout le monde.
Oui, parce que pour vous, c'est important que les personnes qui vivent avec ce trouble du développement du langage vivent leur vie.
Oui, vivre leur vie, puis qu'ils demeurent pas isolés chez eux, parce que le trouble du langage n'empêche pas une personne de travailler. Il l'empêche juste de se rendre à l'emploi. Parce qu'une fois qu'il est à l'emploi, c'est pas parce qu'il y a un trouble de langage qu'il sera pas capable de faire son travail, mais c'est de se rendre à l'emploi.
Ouais.
On sait que c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile d'aller chercher l'emploi qu'on désire. Donc, c'est cette partie-là. C'est pour ça que je voudrais sensibiliser les employeurs qui donnent une chance aux personnes dysphasiques, mm-hmm. mais en même temps, il faut qu'ils connaissent aussi c'est quoi la dysphasie.
Ouais.
C'est pour ça qu'il faut la faire connaître, la dysphasie, le plus possible. C'est notre objectif, c'est notre mandat principal.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Comment vous faites pour atteindre les employeurs?
Bien, en fait, on a tenté de faire différentes choses par rapport à ça. Moi, j'ai fait un projet qui s'appelle Dysphavie, qui faisait vraiment qu'on cognait à la porte des employeurs, qu'on allait chercher des gens qui voulaient donner une chance à ces personnes-là. Puis après ça, on les aidait, on les accompagnait. On accompagnait la personne dysphasique au travail. On faisait du mentorat, du coaching, je m'excuse, avec d'autres employés. Donc, c'est ça qu'il faut solliciter. C'est ça qu'il faut recruter. C'est un travail à faire. C'est il faut vendre le talent de ces personnes-là.
Mm-hmm.
Puis plus qu'on va mettre des personnes, justement, en témoignage, c'est ce qu'on a fait, justement, avec les capsules vidéo. On a fait quelque chose de bien pour faire parler un employeur-employé, montrer par un jumelage qui a bien réussi. Mm.
Et est-ce que ces capsules sont encore accessibles?
Oui, ben en fait, les capsules, on peut les voir sur notre site web, www.dysphasiemcq.com. Vous pouvez aller sur l'onglet vidéo, puis vous avez les capsules sur le site web. Vous pouvez les visionner.
OK. Est-ce que vous savez s'il y a plusieurs personnes qui naissent avec ce trouble du développement du langage?
Ben en fait, ben dans la population au Québec, on peut dire 7%. Il y a 7% de personnes, ça touche un peu plus de 7% là, des enfants qui sont atteints. Puis là, on parle des enfants vraiment qui ont des diagnostics parce qu'il y en a qui peuvent avoir leur dysphasie toute leur vie sans nécessairement savoir.
Ah oui?
Moi, quand je parle du 7%, moi, je parle d'un 7% de diagnostiqués.
OK. Puis il y a différents degrés dans la dysphasie.
Ouais, léger, modéré, puis sévère. C'est pour ça que ceux qui c'est léger, ben ils vont réussir quand même à faire leur place. Modéré un peu moins, puis sévère, c'est sûr que c'est plus difficile pour eux.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ben, merci pour votre beau travail, Suzanne Maltais. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Association québécoise de la dysphasie Mauricie et Centre du Québec. J'espère qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ont été à l'écoute aujourd'hui. Faut pas lâcher.
Moi aussi. Merci, Madame Denis. Bonjour.
Bye-bye.